écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. continue à lui donner des coups de pied dans le ventre. Elle réussit à lui dire « Je t'ai déjà donné beaucoup !» Il continue à la battre, Il lui dit « Tu vas retourner la voir ton notaire, salope !» Elle reste inflexible. Lui, pour l'avoir à lui, pour qu'elle puisse, ne puisse plus se passer de lui. Il la viole par terre. Elle ne ressent que la souffrance. Il se sauve en courant. Il est sûr qu'elle ne dira rien. Malheureusement, malgré la souffrance, ce qu'il lui a fait, elle ne peut plus s'en passer. Ne peut plus se passer de lui, de ce plaisir étrange mélangé à la souffrance. Parce que malgré tout, en revivant son viol, elle en a un plaisir étrange qui lui donne envie de recommencer, et ceci malgré la souffrance et l'humiliation. Elle attend tous les jours David, mais ne le revoit que deux mois plus tard. Cette attente a été très dure pour elle. Lorsqu'il revient, elle est aux anges. Elle fait comme si rien ne s'était passé et lui fait celui qui n'a rien fait. Il ne lui reproche plus le testament et se dit que plus tard, elle lui dira qu'elle l'a sacrifié en sa faveur, qu'elle l'a rectifié en sa faveur. Pour le moment, il ne veut pas en parler. Cyril est toujours à la rue. Il fait la manche pour avoir un peu à manger. Un soir, il rencontre dans la rue un jeune homme dans les 25 ans, grand, mince, cheveux longs, châtains, le visage sympathique, habillé d'un costume d'été clair. Cyril demande « Vous avez une petite pièce pour moi, s'il vous plaît ?» Le jeune homme le regarde et lui dit « Non, malheureusement, je suis parti sans rien. » Cyril lui dit « Tant pis. » Merci tout de même. Le jeune homme s'éloigne, mais se retourne pour voir Cyril. Il le voit, l'air triste, maigre, sale, ses vêtements déchirés, et cela lui fait mal. Il s'en retourne et lui dit, « Écoute, ça peut te paraître bizarre, mais ne crains rien. Tu peux venir chez moi si tu veux, et là je pourrais t'offrir à manger. » Le mot manger fait un clic, un déclic à Cyril, et dit au jeune homme: je veux bien, merci. Et suit le jeune homme. Le jeune homme lui dit: je n'habite pas très loin, je m'appelle Rémi Dommage, et toi? Cyril lui dit: moi c'est Cyril, tout simplement. J'ai perdu la mémoire et je ne sais pas vraiment qui je suis. Je suis juste un prénom, et ce prénom, je ne sais même pas si c'est le mien. C'est simplement une personne qui m'a dit de m'appeler comme ça. Rémi lui dit: il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus rien à cause de la misère, de la chaleur et de cette maladie. Là, toi en plus, tu as perdu la mémoire, pauvre petit. Cyril lui dit: je ne suis pas un gosse. Rémi lui dit: c'est une façon de parler. Il le fait entrer dans une allée d'un immeuble de 5 étages, cossu. Monte juste au 3e étage. Et Rémi ouvre la porte de son appartement. Entre. C'est un appartement de 3 pièces assez vaste, avec très peu de meubles, et ces meubles sont faits ou ont la forme genre Ikea. Le mène à son séjour. Où les murs sont remplis de livres. Assieds-toi. Le fait asseoir sur un divan devant une table basse et lui demande: tu veux boire quelque chose? Cyril lui dit: donnez-moi un jus de fruits, merci. Rémi lui dit: j'ai que du jus de pomme, cela te va-t-il? Cyril lui dit: ça va, merci. Et Cyril, Rémi va le lui chercher. Tiens. Voilà, merci. Ils boivent en silence, puis Rémi lui dit: je suis journaliste, je travaille à un journal et j'écris des articles. J'ai fait une enquête sur une grande famille, les Forvigny. Tu connais? Cyril lui dit: non. Rémi lui dit: c'est une des plus grandes familles de France et qui ont des entreprises de produits de beauté. Cyril lui dit: c'est pas pour moi ces choses. Rémi lui dit: bien sûr, mais ça se vend très bien. J'ai fait l'enquête sur cette famille parce qu'elle est dirigée par une vieille dame qui vit seule et qui a comme petit ami un gigolo, un certain David Zibouman. Je pense qu'il a ensorcelé la vieille dame pour lui prendre le plus qu'il peut. C'est son habitude. Il passe son temps à séduire les vieilles femmes très riches et à leur prendre le plus d'argent qu'il peut. Je crois que je vais pouvoir mettre cette affaire au grand jour. Pour sauver cette pauvre femme que l'entreprise de l'emprise de cet homme, le gigolo à vieille femme qui prend leur fortune. Il choisit surtout lorsqu'elles sont seules et s'ennuient. Elles sont heureuses d'avoir quelqu'un pour les distraire. Lui, très vite, leur demande beaucoup d'argent et même devient très violent avec elles lorsqu'elles lui refusent quelque chose. Et Cyril parle aussi de sa vie dans les rues. Fois qu'ils aient fini de boire, Rémi se dit que c'est un jeune qui ne peut pas le laisser comme ça, dehors, sans rien. Il a bon corps. Alors il lui dit: si tu veux, tu peux vivre ici. Ne crains rien. C'est simplement par amitié, parce que j'ai pitié de toi.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Cyril en a marre de sa vie et lui dit :
Je veux bien, merci.
Alors Rémi lui présente l'appartement et lui montre la pièce qui sera sa chambre.
Durant la journée, il transforme la pièce en chambre, met un matelas à terre, des draps et une couverture. La chaise, une chaise et une petite table. Rémi lui dit,
est-ce que ça te va ?
Cyril, tout heureux, lui dit,
je vous remercie.
Lorsque le soir arrive, Cyril se dit que certainement Rémi va le rejoindre dans sa chambre. Mais non, il est heureux et se dit qu'il n'a pas à se défendre et à cacher ce qu'il est.
Et la vie commence à deux. C'est un peu comme avec Raoul, mais en moins, il n'y a pas de sentiment amoureux ni de rapport sexuel, c'est mieux.
Malgré sa joie, il continue à penser à Raoul et lui rester fidèle.
Il mange à sa faim et Rémi le laisse toute la journée chez lui. Il peut sortir dans la journée, il passe son temps à se reposer, à feuilleter des livres comme ça.
Rémi continue à faire son enquête. Il réussit, en allant au café, qui n'est pas bien loin de la maison de Jeanne, à rencontrer Marie Berthet, sa secrétaire. C'est le cafetier qui lui a dit qu'elle était la secrétaire de Jeanne. Lui lui a donné un billet pour lui demander des informations sur Jeanne et le cafetier a dit que justement la secrétaire venait tous les soirs prendre son petit verre de vin blanc. Marie Berthet, la secrétaire.
Lorsqu'elle rentre au café, elle va s'asseoir seule à une table. Le cafetier lui apporte son petit verre blanc de vin blanc et se retire. Elle boit tranquillement. Rémi va vers elle. Elle est surprise et lui dit
« Bonjour madame, je suis journaliste. Je m'appelle Rémi Dommage et je fais une enquête sur madame Jeanne Forvigny et ses rapports avec David Zibouman. »
Elle est surprise.
Et en quoi cela vous regarde-t-il ?
Il lui dit, disons, je cherche à secourir les femmes qui sont en danger, si vous pouvez me comprendre.
Elle réfléchit et lui dit, asseyez-vous.
Il s'assoit en face d'elle.
Elle lui demande, alors d'abord, j'aimerais savoir et avoir la preuve de ce que vous, de qui vous êtes.
Il lui montre sa carte de presse.
Alors elle lui dit tout, absolument tout, même les scènes.
Elle lui dit,
je vous ai dit ça parce que j'ai pitié de cette pauvre femme qui est sous l'emprise de cet homme horrible.
Il lui demande, et pourquoi est-elle sous son emprise ?
Elle lui dit, parce qu'elle vit seule et s'ennuie.
Alors bien sûr, une personne qui s'occupe d'elle et qui en plus au début semblait très gentille avec elle,
il la faisait sortir. Il faisait connaître des tas de choses. Et très vite, ça s'est dégradé.
Il lui a demandé de plus en plus d'argent et la traitait de tous les noms, si vous saviez.
Il lui dit, je vous remercie. Je vais continuer mon enquête et ensuite je ferai un article pour que cette personne ne nuise plus aux autres. Je vous demande de me téléphoner et me dire ce qui se passe.
Il lui tend sa carte avec un numéro de téléphone et lui donne un billet.
Et lui dit, non monsieur, pas ça. Je le fais pour secourir madame. Et rien de plus. Je suis une honnête femme.
Rémi, lorsqu'il revoit Cyril, lui parle de cette histoire.
Cyril, malgré tout, se sent intéressé par ça.
Il ne sait pas pourquoi cette histoire l'intéresse.
Marie Berthet téléphone tous les jours au journaliste pour lui dévoiler des choses.
La bonne, qui aime David, le prévient qu'il se prépare quelque chose.
Alors David surveille la maison et voit Marie Berthet avec le journaliste au café.
Il suit le journaliste qui s'est séparé de Marie Berthet.
et le voit prendre sa voiture. Alors David prend la sienne et le suit. Le suit jusqu'à chez lui. Il va plusieurs jours surveiller les allées et venues de l'immeuble. Un soir, il voit Rémi sortir seul de son immeuble pour aller au journal. Il y va à pied parce que le journal n'est pas loin de chez lui. Tout d'un coup, il voit courir à lui un homme qui lui demande « Vous êtes journaliste ?» Rémi lui dit « Oui, pourquoi ?» L'homme lui dit « Et vous faites un article sur les Forvigny ?» Rémi lui dit « Je vous écoute ?» L'homme dit « Non, pas ici, marchons un peu, allons dans un coin. » On ne peut pas nous entendre. Rémi lui dit, oui, allons chez moi si vous voulez. L'homme lui dit, non, j'aime mieux pas. J'aime moins un endroit neutre. Et se met en marche. Rémi est surpris, mais veut absolument savoir ce que lui veut cet homme. Il lui demande, vous connaissez les Forvigny? L'homme lui dit, oui, et même très bien. Rémi lui demande, et qu'est-ce que vous voulez me dire sur eux? L'homme lui répond, « Pas ici, on risque de nous entendre. » Et ils continuent à marcher. Ils arrivent sur les quais de Seine. L'homme lui dit, « Descendons, nous serons mieux sur la berge pour parler. » Ils descendent sur la berge. Il fait nuit, il n'y a personne. On entend sourdement le bruit de la ville et surtout le bruit de l'eau. Il fait sombre, pas de lampadaire. Rémi, une fois sur la berge, demande. Alors, qu'avez-vous à me dire? Nous sommes tranquilles ici. L'homme s'approche de lui. Rémi attend. L'homme est tout près de lui et lui donne un coup de couteau au corps. Hop! Sans que Rémi ait pu s'en rendre compte. Il fléchit, tombe à la renverse et meurt. Alors l'homme pousse le corps de Rémi et le jette à l'eau, puis remonte sur le quai. David, une fois sur le quai, les met dans les poches, rentre chez lui tranquillement. Cyril attend Rémi. Il attend toute la nuit et le lendemain. Il est très inquiet, mais ne sait que faire. Puis, en descendant pour aller faire ses courses, il tombe sur la concierge qui lui dit « Vous n'avez pas lu le journal? Votre ami journaliste, l'homme qui était si gentil, eh bien figurez-vous qu'on l'a retrouvé mort dans la Seine. Il n'est pas mort noyé. » Mais d'un coup de couteau au corps. C'est terrible! Cyril se sent défaillir et remonte chez lui pour pleurer tranquillement. Il ne sait que faire et a beaucoup de peine pour Rémi. Il reste frustré comme ça toute la journée en pensant à son ami et se dit qu'il n'a pas de chance. Toutes les personnes qu'il a aimées, Rémi, Raoul, et son grand ami de lycée. Une nuit, il dort dans son lit et est réveillé par du bruit. Il a peur. Il entend la porte s'ouvrir. Il sait que ce ne peut être Rémi. Alors panique. Et se cache dans un petit meuble qui sert d'armoire, qui est vide. Il voit, ou plutôt, il entend des gens qui fouillent. Et prête des choses. Il comprend que c'est des papiers. L'ordinateur. Cyril a très peur. Malheureusement, il ne peut rien faire. La porte de la chambre s'ouvre. Des pas. Il voit un homme, plutôt une grande ombre, qui a ouvert la porte du petit meuble et le sort. On le sort du meuble. Cyril a très peur et ne peut crier parce qu'on lui a mis une main sur la bouche. Mais il gigote pour essayer de sortir de cette emprise. On le prend avec les papiers, l'ordinateur. On sort de l'appartement.
Une fois dehors, on le mène à une camionnette.
Cyril se demande où on va le mener. Il a tellement peur qu'il ne peut parler ni bouger. Le trajet est long. Dans la nuit, la camionnette file en dehors de la ville. Puis après un long trajet, au lever du jour, la camionnette s'arrête. Cyril se demande où on l'a mené. Il a tellement peur qu'il ne peut parler ni bouger. On ouvre la portière de la camionnette. Cyril voit qu'il est en pleine campagne. Et qu'il y a une petite maison qui semble abandonnée. On le mène avec les papiers et l'ordinateur à la maison. On le fait entrer dans la maison. L'intérieur est sombre, on n'y voit rien. Là, il y a David, qui est surpris de voir Cyril. Il est pris par sa beauté, comme lorsqu'il était en Odile. Il est trop tard, même en garçon, il est pris par lui. Car là, il voit que c'est vraiment un garçon, à cause de la bosse qu'il a entre les jambes. Là, il lui demande, « Qui es-tu ?» Cyril lui dit, « Je ne sais pas. » David, furieux, comme d'habitude, lui donne des coups de poing. Partout, et lui demande. Pourquoi est-ce que tu étais habillé en femme? Je t'ai reconnu, tu sais. Cyril apeuré lui explique. David, malgré tout, est pris, qu'il soit en homme ou femme. Maintenant, il est trop tard. Il décide de le garder. Il dit aux hommes. Mettez-le dans une pièce et gardez-le. Cyril a peur et n'ose pas protester. On met dans une pièce sombre, sans lumière, qui sent petite. Il y a terre en matelas. Une fois que lorsqu'il est rentré dans la pièce, il est fermé à clé. Avant de sortir de la maison, David détruit les papiers et l'ordinateur. Cyril, remis de ses émotions, cherche à fuir. Réussit à ouvrir la porte en tapant avec son épaule. Court dans la maison. Malheureusement, David le rattrape et donne un coup à la tête, ce qui l'assomme et va le remettre dans la pièce. La porte n'a pas été abîmée. Il lui dit, ça ne sert à rien de chercher à t'enfuir. La maison est fermée. Et puis, tu es en pleine campagne.
David n'a jamais connu Adrien, ne peut pas le reconnaître en Cyril. Parce que s'il avait su que c'était Adrien, là les choses n'auraient pas été pareilles. Certainement qu'il aurait cherché à l'éliminer de peur que la vieille donne toute sa fortune à son petit-fils. Marie Bertin n'entend plus parler du journaliste. Inquiète et se dit qu'il a dû lui arriver quelque chose, alors elle va voir Albert, lui raconte tout. Mais lui panique, car il ne veut pas que les journalistes mettent les pieds dans leur affaire, il ne veut pas que ça s'ébruite. La police, pour faire son enquête, va chez Rémi. Elle apprend de la concierge qui vivait avec un jeune homme. Malheureusement, l'appartement a été vidé et fouillé, il n'y a rien. La police pense que c'est peut-être le jeune compagnon qui a tué par jalousie ou pour le voler et qui s'est enfui avec ses affaires. Malheureusement, un clochard a vu le jeune homme qui a été escorté et qui ne voulait pas qu'on le mette dans une voiture noire. Le clochard est allé de lui-même dire ceci aux policiers qui sont entrés dans l'immeuble de Rémi. Il leur demande, c'est vous qui vous occupez du meurtre du journaliste? Le commissaire, un homme grand, maigre, cheveux châtains, costume gris, lui demande « Pourquoi ?» Le clochard lui dit « C'est-à-dire que j'ai des choses à vous dire. » Le clochard raconte ce qu'il a vu. On l'amène au commissariat, consigner sa déclaration. Le policier qui a vu l'appartement vide se demande si le journaliste n'était pas en train de travailler pour quelque chose d'important. Il va au journal et le rédacteur en chef, qui est un homme gros, petit, chauve, l'air jovial, lui dit « Malheureusement, c'est un journaliste indépendant. Mais j'ai appris qu'il travaillait sur une famille très fortunée qui était en danger. » Le policier demande « Quelle famille ?» L'autre hausse ses épaules. Alors la police décide de poursuivre leur enquête chez les gens fortunés avec la photographie du journaliste. Mais rien. Le pauvre Cyril est toujours enfermé dans sa pièce. Il est alimenté par un homme. David ne peut s'empêcher d'aller le voir pour chercher à l'amadouer. Mais rien n'y fait. Cyril ne fait que lui dire « Laissez-moi partir !» David lui dit « Non, je ne peux pas, et tu sais très bien pourquoi. » Et il le laisse. Puis au fil des jours, Cyril, qui prend de l'assurance et peut mieux réfléchir, veut à tout prix savoir qui est la personne qui est ennuyée par David pour le nuire. Parce qu'il a compris que si David a assassiné Rémi, et lui a pris tous ses papiers et l'ordinateur, que cela veut dire que ce doit être la personne qui s'occupe des vieilles femmes. Alors il décide de le séduire. Tout d'abord, il lui dit qu'il a perdu la mémoire, qu'il a vécu au séminaire, qu'il a eu beaucoup d'aventures, etc. Qu'il a été obligé, c'est de s'habiller en femme pour ne pas être repéré par la police parce qu'il s'était enfui d'un asile. Raoul a été séduit par lui et que lui n'a pas osé lui dire qu'il était de peur que Raoul soit en colère contre lui et le jette à la rue.
Pour ce qui est de Rémi, je vous jure que je ne savais rien de ce qu'il faisait. David, séduit par lui, veut absolument le croire. Siri lui dit, « Je ne veux plus rester ici. J'ai peur. Je veux retrouver ma liberté. » David se demande pourquoi il est pris par ce jeune homme. Peut-être parce qu'il n'a pas connu d'amis d'enfance. Mais là, son désir est plus trouble. Il a honte. Mais il ne peut rien y faire. Un jour, en allant chez Jeanne, il voit la photographie d'Adrien sur son piano à queue. Il lui demande « Qui est-ce ?» Elle lui dit « C'est mon petit-fils, Adrien. Malheureusement, il a disparu. Il a fait une fugue. Il n'en a plus de nouvelles. Cela m'attriste. C'est la seule personne que j'aime vraiment. Il est furieux. Et moi ?» Elle lui dit « Pour vous, c'est pas la même chose. Tu ne peux pas être jaloux d'un enfant. Non ?» Il sourit, lui dit « Non, bien sûr. » Il se dit qu'il peut se servir de la ressemblance de Cyril avec Adrien. Oui, il peut le faire passer pour lui. Comme ça, il pourra manipuler la vieille au fond et sans être là. Mais comment convaincre Cyril ? Je vais lui dire que je le libère et qu'il vivra dans le luxe. Mais en échange, il devra faire ce que je devrais lui dire. Voilà ce que je vais lui proposer. David décide de faire son plan un peu fou en se disant, on ne sait jamais, ça peut marcher. Il va voir Cyril pour lui expliquer ce qu'il veut qu'il fasse. Prendre la place d'une personne qui lui ressemble beaucoup et exécuter les ordres qu'il lui donnera. Cyril lui dit, je refuse. David lui dit, si tu refuses, je vais te faire éliminer comme personne qui a de la peste. J'ai des relations, je peux tout simplement téléphoner pour qu'on vienne te chercher. Je te donne un jour pour réfléchir. Et il le quitte. Cyril réfléchit et se dit qu'il ne peut refuser et que peut-être cela va lui ouvrir la porte de la liberté et pourra se venger de David. Il lui dit « Oui. » Alors David explique qui est Adrien, Forbini et sa famille. L'oncle, sa tante, qui sont très dangereux. Pour ce qui est de l'histoire d'Adrien, il s'est renseigné grâce à la bonne, mais il ne sait pas trop de choses. Il lui dit « Tu n'as qu'à faire celui qui retourne chez ta grand-mère, tout simplement. Tu lui diras que tu as fait une fugue et que tu ne sais pas retourné chez elle de peur de te faire disputer. Une fois rentré chez elle, tu recevras des ordres de moi. C'est simple, les vieux sont faciles à manier. » Cyril lui demande, « J'aurai quoi en échange ?» David lui dit, « Tu vivras dans le luxe et après, tu disparaîtras avec une bonne somme. » Cyril lui demande, « Après quoi ? Qu'est-ce que j'aurai à faire ?» David lui dit, « Te fais pas de soucis, je dirai tout ça en temps voulu. Mais ce sera très simple ce que tu auras à faire. » Cyril se dit qu'il veut manipuler la vieille avec sa complicité, mais lui pourra le manipuler une fois dans la place. Tous les jours, David va voir Cyril et lui fait apprendre sa leçon. Il accepte tout ce que demande David. David lui dit aussi, on va te poser des questions sur ta fugue et le pourquoi. Tu dois répondre que tu es parti parce que tu avais besoin de liberté et que tu as traîné dans les rues au hasard. Fais la manche et rencontré quelques jeunes qui t'ont aidé un peu. Tu as squatté, etc. Et on te demande, si on te demande où était ce squat, tu diras que tu t'en souviens plus. Voilà. De toute façon, la vieille sera trop heureuse pour te poser des questions. Cyril, avec des habits sales, déchirés, chaussures mortes, visage maigre et triste, des yeux luisants, un peu fiévreux et tremblants, tremblant le porc, et ses yeux luisants parce qu'on lui a donné un petit calmant. Cyril ne se souvient pas qu'il a Adrien. Il croit qu'il va prendre la place d'Adrien parce qu'il a perdu la mémoire. Il sonne au portail. À l'interphone, une voix demande. « Oui, qui est-ce ?» Cyril lui dit. « Bonjour, je suis Adrien, le domestique fait. Monsieur, entrez !» Cyril a entendu le déclic du portail. Il entre, tremblant dans la propriété. Il a entendu derrière lui le portail qui s'est refermé. Il a très peur et se dit qu'il vient peut-être d'entrer dans sa nouvelle prison. Il sonne à la porte de la maison. Il lui a ouvert. Un domestique, une domestique, elle lui dit « Oh monsieur, vous voilà enfin, madame va être heureuse, entrez vite !» Cyril, tremblant, entre. Elle lui dit « Je vais vous mener à madame qui est au salon. » Elle le mène au petit salon qui est au premier étage. Frappe à la porte et le fait entrer. Cyril se trouve au salon, il ne le reconnaît pas et voit une vieille dame qu'il ne connaît pas non plus et a très peur. Jambes tremblantes, surprise et heureuse, accourt à lui. Te voilà enfin! Elle le prend dans ses bras et l'embrasse. Lui dit, « Je te fais du souci si tu savais. » Elle le regarde bien et lui dit, « Dans un trou d'état. Mais c'est pas grave. Alors, que t'est-il arrivé et pourquoi n'es-tu pas rentré plus tôt ?» Cyril est ému par tout ce qui l'entoure, la vieille dame qui le reçoit amicalement et même avec amour, répond comme il peut. Il lui dit, je ne sais pas, je n'ai pas pu revenir, j'avais trop honte. Tout d'un coup, il voit tout tourner et s'évanouit. La grand-mère se dit paniquée qu'elle n'aurait pas dû lui poser des questions, que le petit avait sûrement besoin d'être ménagé. Vite, elle le prend comme elle peut, pour déposer, il est lourd pour elle, dans un fauteuil. Elle lui donne des petites tapes sur le visage pour qu'il puisse reprendre connaissance, mais rien n'y fait, et panique un peu. Elle sonne un domestique. Un domestique arrive et lui dit, aidez-moi, apportez cet enfant dans sa chambre. Ensuite, vous irez chercher le médecin. C'est ce qu'ils font. tard, le médecin, qui est le médecin du quartier, est un homme grand, gros, cheveux gris, dans les 60 ans, habillé d'un costume gris. Et l'ausculte Cyril dit à la grand-mère, « Ce n'est pas grave, madame. Il a besoin de se reposer et de bien s'alimenter. J'ai l'impression que cet enfant a dû prendre quelque chose, peut-être un calmant, je ne sais. Allez, faites-le bien boire. » Et le médecin s'en va. Cyril se réveille. Il ne sait plus où il est et voit qu'il est dans une belle chambre. Bien entendu, il ne reconnaît pas cette chambre qui est la sienne. Il ne bouge pas, reste dans son lit. Il est trop bien, beaucoup trop bien. Au bout d'un moment, on a frappé à la porte. Et l'on rentre. C'est la bonne, une femme dans les 50 ans, toute ronde, l'air gentille. Elle va vers lui avec le sourire et lui dit « Oh monsieur, vous êtes réveillé, c'est très bien. Monsieur, je vais pouvoir vous aider à vous laver. Mais vous êtes tout tremblant. » Alors, Cyril se laisse dévêtir. Une fois qu'il est nu, il est mené à la salle de bain. Il est mis dans la baignoire. La bonne le frotte dans la baignoire. Cela ne gêne pas du tout d'être nettoyé nu par cette femme parce qu'il n'a pas encore tout à fait conscience. Puis, une fois qu'elle l'est lavé, enroulé dans un peignoir, elle le ramène à la chambre. Le fait allonger, ou plutôt asseoir dans son lit, puis elle lui apporte à manger, ou plutôt à boire, un bouillon. Un bouillon bien chaud. Cyril a des difficultés à boire, puis petit à petit, il ressent que ça lui fait du bien à son corps. Une fois qu'il ait fini son bouillon, la bonne le laisse pour qu'il puisse se reposer. Et la grand-mère vient le voir. Elle est toute heureuse. Elle lui demande « Tu vas mieux ?» Il lui dit « Merci. » Je vais très bien maintenant. Elle lui dit, je suis très heureuse. Si tu savais que tu m'as fait énormément de peine. Puis je me suis fait beaucoup de soucis. Comme tu m'as manqué. Je croyais que tu étais mort et que tu avais peut-être pris cette affreuse maladie. Je pensais à toi constamment. Et toi, mon chéri? Il lui dit gêné, moi aussi. Elle lui dit, T'aurais dû rentrer plus tôt. Tu sais, je t'aurais reçu comme maintenant. Tu n'avais pas à avoir peur. Et puis, tu sais que je t'aime beaucoup. Et toi, est-ce que tu m'aimes ? Cyril, que nous allons appeler maintenant de son vrai nom, qui ne sait pas qui s'appelle réellement Adrien, Adrien, moi aussi, je t'aime. Il est très heureux et lui saute au cou. C'est la fatigue, l'émotion qu'il fait pleurer et aussi la honte. Parce que lui se sent gêné et se dit qu'il est ici, c'est pour détrousser ces gens qui le reçoivent aussi bien. Et cette vieille dame qui semble si gentille et tout. On le force à rester au lit. Il est nourri, on lui donne des fortifiants et le fait boire. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.